les rapports de l'intelligence et des sens font la diversité des philosophies. Le rejet de la causalité, le rejet des sens, parce que les sens nous trompent, sont occasion d'erreurs. Le fait de nier les sens et de ne regarder que le développement de l'intelligence et l'équilibre aristotélicien entre les sens et l'intelligence. Il faut, je crois, voir ça avec beaucoup d'objectivité pour comprendre ce qu'est la recherche philosophique. C'est un équilibre constant entre le point de vue des sensations. Je ne quitte pas l'expérience, pas l'expérimentation. Une expérimentation est une fausse expérience, parce que c'est une expérience qui est déjà très élaborée, où on cherche quelque chose de très particulier et on va dans un sens très déterminé et on se sert d'instruments, entre autres, qui font que nos sens ne sont plus les mêmes. Autre chose est regarder le monde à travers un télescope que de regarder selon notre vision normale. Et alors on devrait toujours marquer avec quel instrument je peux regarder le monde. Je l'ai regardé avec tel instrument. Et par le fait même, l'équilibre a été très différent, parce que le télescope ne grossit pas le toucher. Ah. Ça ne grossit que les qualités visuelles. C'est très curieux, ça. Alors, on vit dans un monde visuel où le toucher n'est plus. Et ça, c'est extrêmement visible, un monde visuel. La plupart du temps, dans l'expérimentation, il n'y a plus que la vue. Il n'y a plus que la vue prolongée. Une vue où on voit quelque chose grâce au télescope, grâce à des instruments. Ce n'est plus notre vision normale humaine, mais c'est des instruments. Donc, tout le monde est vu dans une certaine grossissement de certaines valeurs et d'autres valeurs qu'il laisse à côté. Dans toute expérimentation, juger une expérimentation critiquement, vous verrez bien, on s'est servi de tel instrument. L'instrument, qu'est-ce qu'il a grossi? Tout ce qui était visuel, pas touché. Vous n'avez jamais touché un atome. Or, le toucher, c'est le sens de l'existence. Donc, vous n'avez pas touché quelque chose, vous pouvez dire ceci est, existe. Je l'ai vu, mais attention, vous avez des mirages. Alors, les mirages, on peut les avoir naturellement, on peut les avoir artificiellement, en augmentant énormément notre vision. On touche intellectuellement, par l'œil, on touche quelque chose qui est intouchable. Et on ne fait pas de différence. Donc, l'expérience elle-même est faussée. Et on construit là-dessus. C'est très bien. on a tout à fait raison de chercher quelque chose, mais on devrait le souligner. J'ai atteint ça grâce au télescope, à la microscope. J'ai atteint ça de cette manière-là. Je ne l'ai pas atteint par ma vue normale, qui, elle, est toujours en relation avec le toucher. Et je fais normalement la différence entre ce que je vois très loin et ce que je touche. Et le toucher est le sens de l'existence. Tant qu'on n'a pas touché quelque chose, ceci est. N'est pas réel, ceci est, c'est-à-dire ceci est vu grâce à telle opération, tel instrument. Vous voyez, c'est là où la critique doit jouer. C'est que la connaissance scientifique n'est pas une connaissance du réel. Elle est une connaissance vue par l'homme dans telle ou telle condition. Et je me suis fabriqué mon monde dans ces conditions-là. Mais je ne vis pas dans ces conditions-là. Donc il y a d'une part l'expérience scientifique, d'autre part ma vie pratique. Et je devrais tout le temps faire. Je ne vis pas selon les conclusions scientifiques. Mais ces conclusions scientifiques, quand elles peuvent me servir à quelque chose, je m'en sers. Or, elles ne sont pas pratiques. Elles ne sont plus pratiques, puisque elles sont dehors du toucher. C'est terrible à regarder vraiment dans un point de vue critique. Ça nous empêche de tomber dans une vision du monde qui n'est pas juste. La vision du monde juste, c'est un monde qui existe. C'est très important de voir ça. C'est la différence entre l'expérience et l'expérimentation. L'expérimentation, je vois certaines choses grâce à certaines conditions. Si je ne suis pas dans ces conditions-là, je ne verrai pas. Mais si je suis dans ces conditions-là, je vois un monde qui apparaît. Alors, ce monde, qu'est-ce qu'il est au point de vue réel ? Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que vous abstrayez. Et jusqu'où l'abstraction permet au réel d'exister encore ? Au contraire, je pousse ma connaissance le plus loin possible dans le sens visuel et non plus tout dans le toucher. Ceci, c'est pour vous montrer combien faire attention quand je dis que la philosophie repose sur l'expérience. La philosophie ne repose pas sur l'expérimentation. Elle repose sur l'expérience de mes sens. L'intelligence, alors, s'éveille par l'expérience. Toute expérience éveille, peut éveiller l'intelligence qui se pose alors des questions. Alors c'est ça le point de vue qui serait très intéressant à bien voir, c'est de voir que les interrogations que je me pose sont-elles dépendantes des cinq sens ? J'en ai cinq sens. Les interrogations viennent de mon intelligence. Mais mon intelligence est dépendante des sens. Et alors, est-ce que, quand je me pose mes interrogations fondamentales, les grandes interrogations, en quoi, qu'est-ce, d'où, afin de quoi, sur l'exemple de quoi? Vous n'avez pas tellement d'interrogations. Vous n'avez pas plus. Hein. Vous en avez cinq. Alors, est-ce que ces interrogations-là, au fond, sont en dépendance de mes cinq sens? Parce que j'ai cinq sens. Dans toute expérience, il y a un sens qui est plus développé qu'un autre. Quand vous vivez dans le bruit constant, le bruit que vous étudiez est différent que quand vous étudiez, que quand vous le regardez dans le désert. C'est vrai. Alors, dans l'expérience ordinaire, les sens s'appellent mutuellement, mais il y a quand même des sens plus éveillés. La vision, le toucher, les deux extrêmes. C'est la vision et le toucher. Et entre nous, les autres. Alors, y a-t-il une question? C'était un problème très intéressant, je me souviens. Une année, on avait consacré à Fribourg cette recherche-là, voir si vraiment, dans l'expérience ordinaire, qui fait appel à le toucher, la vision, le l'ouïe, l'odorat. Mais le goût. Alors, est-ce que la note dominante du toucher ou la note dominante de la vue me fait regarder les réalités que j'expérimente d'une manière spéciale? Je crois qu'il y a un lien. Et au fond, qu'on ne voit jamais. Voyez, vous avez les cinq interrogations, vous avez les cinq sens. Mettez en parallèle, je ne le fais pas ici, mais je vous indique simplement quelque chose qui est très intéressant, de voir comment nos cinq sens commandent nos cinq interrogations. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça montre que nos cinq interrogations sont propres à une intelligence liée au sens. Une intelligence qui n'est pas liée au sens interroge autrement. Conversation avec les anges. Les anges qui font de la métaphysique ne font pas la même du tout que nous. Notre métaphysique est une métaphysique humaine. Ce n'est pas une métaphysique en soi. Non. Métaphysique humaine. Et c'est pour ça que le regard de Dieu sur les choses n'est pas notre regard métaphysique. Ne confondons pas. Le regard de Dieu nous est donné dans la foi. Mais pas dans la métaphysique. Les cinq grandes interrogations. Parce que demandez-vous d'où viennent ces cinq interrogations. Ces interrogations qu'Aristote met en pleine lumière, qu'on n'a pas bougé depuis. C'est l'interrogation de qu'est-ce? Puis il y a l'interrogation du comment, ensuite. Et l'interrogation du qui est-il, qu'est-ce? Qu'est-ce que c'est? En quoi? Qu'est-ce que c'est? Point de détermination. Qu'est-ce que c'est? D'où? L'origine. En vue de quoi? Sur le modèle de quoi? Cherchez bien, vous n'en avez pas d'autre. L'interrogation du TST. avez beaucoup d'interrogations du comment. Alors là, c'est multiple. Les interrogations du comment varient énormément. C'est le milieu, le situ dans lequel on se trouve. Alors ça change énormément. Mais c'est très important de reconnaître qu'il y a deux types d'interrogations totalement différentes. Qu'est-ce ? TST. Qu'est-ce que c'est ? Et l'interrogation du comment. Alors l'interrogation de qu'est-ce que c'est aboutit à la découverte des sources, des principes, des premiers, des causes premières, des principes premiers. Et l'interrogation du comment, c'est la réalisation concrète. Alors, vous avez ces interrogations au point de vue métaphysique, et vous voyez tout de suite que en quoi est l'être, ce qui est en tant qu'être, en quoi est l'être en tant qu'être. Il n'y a pas de réponse, c'est l'être. Il n'y a pas de cause matérielle au point de vue métaphysique. La cause matérielle, elle est pour le devenir, pour le comment. Alors là, pour le comment, elle joue un rôle extraordinaire. Elle modifie le comment. Mais au point de vue métaphysique, non. En quoi ? Qu'est-ce l'être ? Ah, la détermination de l'être. Donc vous avez tout de suite l'interrogation de l'être et vous laissez tomber le comment. Le point de vue, en quoi ? En quoi est l'être ? L'être. L'être n'implique pas un en quoi. Fondamentalement, l'être, il est. C'est très étonnant de réfléchir là-dessus. Mais c'est très important. C'est très important pour comprendre le marxisme. Parce que le marxisme est entièrement basé sur la causalité matérielle. En quoi ? Donc, au fond, la confusion du comment et du TST. Et la confusion du comment et du TST, c'est ce qu'il y a de plus détestable au point de vue de la vie d'intelligence. Parce qu'on confond le point de vue pratique avec le point de vue spéculatif. La confusion du pratique et du spéculatif fait qu'on n'avance plus. C'est très étonnant de voir ça. Donc, il n'y a pas de recherche de l'être au point de vue métaphysique. Mais tout de suite, première question, quelle est la détermination de l'être ? Quelle est la détermination propre de l'être ? D'où vient-il ? Ah, c'est le point de vue du devenir. Et en vue de quoi ? Oui, la finalité. Sur le modèle de quoi ? L'être n'est pas sur le modèle de quelque chose parce qu'il est fondamental. Donc, il n'y a pas de question. Au fond, il n'y a que deux grandes questions en métaphysique. Ça il faut le voir. Il y a deux grandes questions en métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'être ? Et en vue de quoi l'être en tant qu'être ? En métaphysique, la recherche de la cause formelle et la recherche de la cause finale, au point de vue de l'être en tant qu'être, peut se faire. Je laisse de côté la cause matérielle, parce que l'être en tant qu'être n'a pas de matière. L'être en tant qu'être, c'est tel être qui est matériel, mais c'est pas l'être. L'être n'est pas matériel en tant qu'être. L'être en tant qu'être est déterminé. L'être en tant qu'être est finalisé. Vous avez donc deux grandes recherches en métaphysique. La recherche de ce qu'est l'être et en vue de quoi est l'être. Ce qu'est l'être, tu estimes. En posant cette question, ce qu'est l'être, vous pouvez assez facilement découvrir que l'être n'est pas second. Donc, toute détermination secondaire n'est pas la détermination de l'être. Ça aussi, c'est capital de bien comprendre ça. Toute détermination secondaire, c'est la relation. La relation est une détermination secondaire. Je suis déterminé en tant que relatif. L'être ne s'identifie pas à la relation. L'être possède en lui-même une détermination. Qu'est-ce qu'elle est, cette détermination de l'être en tant qu'être? C'est là la grande première question. Aristote y consacre tout le livre Zeta. Tout le livre, là. Tout un livre de métaphysique, de philosophie première. Parce que Aristote mêle dans cette recherche tout le point de vue critique. On peut aller beaucoup plus vite qu'Aristote, là. Parce que depuis Kant, on sépare très nettement le point de vue de la détermination critique. La détermination critique vient de l'intelligence et pas du réel. Or, la très grosse difficulté, c'est de bien distinguer les déterminations qui viennent de l'intelligence et celles qui viennent du réel. La détermination de l'être en tant qu'être ne vient pas de l'intelligence. Ça, c'est la première grande affirmation qui est capitale. Parce que facilement, très facilement, vous considérez que la détermination de l'intelligence, c'est celle de l'être. Et non. L'intelligence est déterminée lorsqu'elle juge. Tout jugement est une détermination. N'importe quel jugement, c'est une détermination. Or, il y a des jugements qui reposent sur la réalité. Il y a des jugements qui reposent sur l'opinion des hommes. C'est une distinction capitale, ça. Il y a des gens pour qui le réel, c'est l'opinion des hommes. Et c'est beaucoup plus fréquent, on le pense, surtout aujourd'hui, dans les communautés. Ils ont un jugement qui est l'opinion commune. Et ils n'ont pas du tout un jugement de la réalité. La réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est ce que tout le monde peut découvrir, indépendamment du jugement des hommes. Tandis qu'au contraire, l'opinion des hommes est dépendante de l'opinion des hommes. Ce sont les hommes qui créent l'opinion. La réalité ne crée pas d'opinion. C'est une distinction fondamentale. C'est la distinction entre l'idéalisme, une philosophie idéaliste, et une philosophie réaliste. C'est, je crois, la première grande distinction qu'il faut essayer de bien comprendre et de faire un discernement. Je ne cherche pas ce qu'il y a de premier dans l'opinion des hommes. Ce qui est premier dans l'opinion des hommes varie. C'est pas la même chose pour Aristote que pour moi. Parce que l'opinion des hommes a changé un peu depuis 200 ans, 2000 ans. Ça change un peu. Ça n'a pas changé tellement. On retrouve, pour finir, la même distinction. Puisque Aristote se trouvait devant Platon. Pour Platon, quelle était la détermination de l'être? Est-ce que c'était ce que les hommes pensaient? Ou est-ce que c'était ce que l'être lui-même est? C'est une distinction très simple, mais capitale, celle-là. La métaphysique s'occupe de la réalité et non pas de l'opinion des hommes. Celui qui reste dans l'opinion des hommes est en dehors de la métaphysique. Et celui qui cherche à aller au-delà de l'opinion des hommes, ah, il commence à découvrir quelque chose d'intéressant. Et c'est là la première distinction très importante. La découverte de la pensée des hommes, c'est savoir si tel ou tel philosophe a dit ça. Quelle est la détermination de l'être? Pour Descartes, quelle est la détermination de l'être? La pensée. Je pense. C'est ça qui est fondamental. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de métaphysique à partir de là. La pensée de Descartes n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Descartes n'est pas la pensée de tout le monde. L'idéalisme, c'est faire la recherche de l'être en fonction de telle, telle personne. Alors, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On reste dans une détermination des hommes. Aristote a dit cela. Et parce qu'Aristote a dit cela, c'est la réalité. Ça, c'est contraire à Aristote. Pour Aristote, on doit creuser dans la réalité elle-même et pas dans la pensée de l'homme.